du 14 au 24 juillet sur les ondes de l'Écho des Planches, la radio du Festival d'Avignon. L'Écho Hugo, deuxième des actions déployées dans le cadre du programme Vecteur Hugo 2017. Cette émission vous reçoit 5 sur 5 pour mieux vous ouvrir les voies du possible. Vous avez votre mot à dire ? Contactez directement le 06 60 88 53 05. Et voyons-nous au rayon frais du grand supermarché du Festival d'Avignon. L'Écho des Planches, tous les jours, avec l'Écho Hugo. Alors nous revoici donc dans cet Écho Hugo. Et puisqu'il faut y aller, eh bien on y va. Et cette rencontre aujourd'hui a lieu autour de Mona. Mona... qui dans son sourire de la Joconde va nous livrer un regard, une parole, celle de Mona Guichard. Mona Guichard, vous êtes en charge, votre chemin d'exploration vous a amené à diriger pendant de longues années toute une articulation d'accompagnement, d'invention avec différents types d'artistes, notamment je pense à la scène nationale de Cherbourg, où vous avez œuvré au sens plein du terme avec toute la complexité structurelle qu'implique la direction d'une scène nationale comme celle-ci. Aujourd'hui, vous êtes libéré structurellement de cette scène nationale pour vous engager sur d'autres frontières. Et à travers ces nouvelles perspectives, où en êtes-vous sur votre regard porté sur l'invention d'un monde et sur ces nouvelles frontières à traverser ? Parce que je pense que diriger un lieu ou un non-lieu, c'est toujours explorer de nouvelles frontières à ouvrir.
En fait, voilà, moi ce qui me frappe, c'est la difficulté du quotidien, c'est-à-dire de travailler avec les artistes, d'inventer des choses, d'être pertinent, de répondre aux sollicitations des partenaires publics et dans une pression qui est constante, avec des équipes dans les maisons de théâtre qui ne sont jamais assez nombreuses. Donc ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que, voilà, que ça soit des grandes ou des petites structures, il n'y a jamais de prise en considération de l'humain. Et en même temps, il faut toujours faire un travail de visionnaire, c'est-à-dire se dire à quoi va ressembler le public, nos structures, l'environnement dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, je trouve que la difficulté quand on est en charge d'une maison ou d'un projet artistique, c'est d'avoir cette double vision.
Alors justement, par rapport à cette double vision, moi j'ai eu la chance d'être de passage à Cherbourg et j'ai pu constater, mais l'outil le permettait aussi, vous faisiez partie de ces directrices, directeurs qui engagiez un travail presque sur la permanence, sur le long terme avec les artistes, mais parce que vous aviez l'outil. Alors oublions ce magnifique outil qu'il permettait. Ma question que je vous pose en termes d'outils, est-ce que le temps ne serait pas venu de revenir à certains fondamentaux ? Vous savez très bien que vous êtes, quand on dirige un lieu institutionnel, on est soumis aussi à la loi du marché d'une certaine manière ou non, qu'on le veuille ou non. On est soumis à une sorte de mécanique programmative. Vous savez très bien, mieux que personne, que les programmations s'établissent dans des liens engagés avec tel ou tel artiste un an, deux ans à l'avance. Est-ce qu'il ne faudrait pas retrouver une sorte d'équilibre qui peut-être n'anéantisse pas le développement, en perspective de programmation, mais est-ce qu'il ne faudrait pas repenser dans l'action le théâtre, je parle du lieu, le théâtre différemment comme un lieu aussi de processus du vivant où la question du partage public puisse aussi se reposer, se réinventer. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, c'est tout à fait ça. De toute façon, je trouve que la chose la plus difficile à installer, c'est de trouver un espace pour l'invention. C'est-à-dire que quand vous prenez la direction d'une maison, on a l'impression qu'on a un cahier des charges qui est sans fin Et on connaît tous des exemples de compagnies qui étaient des compagnies pétillantes et qui ont été étouffées par l'institution. Ce n'est pas l'institution en elle-même, c'est aussi l'absence de capacité de trouver cet espace qui est un espace de vie, qui est un espace d'invention, qui est un espace d'interrogation, qui est aussi un espace d'utopie. Et par exemple, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'incroyable aventure d'Henri VI. Quand je me suis lancée dans cette aventure avec Thomas Joly, il y a maintenant 5 ans, toute la profession m'a appelé, les gens m'ont appelé en disant « mais ne le faites pas, ça ne va pas marcher, vous n'allez pas, il y a 21 personnes en tournée, la production est trop lourde, ça n'ira pas, tout va craquer, etc. etc. » Et c'est vrai que c'est une chose qu'on a quand même faite, c'est-à-dire dans l'espace de liberté qui nous restait avec Thomas, on s'est dit « on le fait quand même ». Alors on a inventé les moyens, mais c'est vrai que tous les artistes ont été payés au-dessus des minima sociaux et je n'ai pas à rougir de ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, il y a cet équilibre à trouver entre une certaine utopie et puis se garder la liberté de penser en permanence. Et on s'aperçoit que cet espace-là, il est menacé de toutes parts en permanence.
Dernière question, Mona Guichard. Nous vivons un temps étrangement de fermeture du possible ancré dans le réel ou dans la réalité, alors que le temps du virtuel nous appelle à l'ouverture, mais finalement cette ouverture nous renvoie à nos isolements respectifs. Vous venez de le dire en filigrane, l'invention du possible. Donc comment vous, Mona Guichard, envisagez-vous une réponse à cet état d'urgence sécuritaire par un autre état d'urgence, celui de l'invention, qui amène à la question de la liberté ?
Alors, si on pense à l'invention, moi, forcément, je pense à nouveau à Victor Hugo, qui a toujours été en avance sur son temps, quelle que soit son époque, et qui a été un des précurseurs de la photographie, on ne le sait pas forcément. Donc, quand on pense à l'image et quand on pense à la littérature et au théâtre de Victor Hugo, on ne peut pas ne pas savoir qu'il pensait déjà à la photographie. Et Charles Hugo, d'ailleurs, avec qui il a été en exil à Jersey, puis à Guernesey, a été un des précurseurs de la photographie. Et donc, moi, je pense qu'il faut relire Victor Hugo, et à mon avis, une grande part des réponses à nos questions contemporaines et à nos atermoiements sont là.
Victor Hugo, justement, vous en parlez, il a l'homme océan qui a tout écrit debout, je dis bien debout physiquement, a terminé sa vie en nous laissant ces 3 mots, juste 3 mots, aimer, c'est agir.
Oui, on ne peut que être d'accord avec ça. Et moi, je préfère ça plutôt que ce que disait Stendhal à partir de Victor Hugo, quand il disait « Victor Hugo devrait écrire moins et travailler davantage ». Et là, je trouve qu'il avait tort.
Merci, Mona Guichard. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, voilà, j'espère qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui écoute. Au cas où il n'y ait personne, je m'adresse donc à toutes les personnes qui sont en personne. Eh bien, en personne, aujourd'hui même, je viens de faire une rencontre puisque nous arpentons Avignon pour le meilleur et pour le pire, mais aujourd'hui, c'est pour le meilleur puisque Olivier Meilleur, laissez-moi aller du meilleur au meilleur, puisque nous sommes aujourd'hui, non pas hier, donc pour demain, Olivier Meilleur. Vous êtes, comme certains le savent déjà, mais d'autres pas encore, directeur de théâtre. Vous êtes une personne qui œuvrait depuis un certain nombre d'années, donc qui avait une vue à la fois particulière dans la réalité de ce que vous articulez dans vos programmations et dans tout ce que ça laisse sous-entendre d'histoire à conjuguer. Et vous êtes aujourd'hui en Avignon dans un moment de l'histoire qui a l'air quelque peu charnière puisque les charnières de la porte ont l'air quelque peu de sortir de leurs gonds, comme le temps, paraît-il, chez Hamlet sort aussi de ses gonds. Où en est-on de votre regard, de votre point de vue sur cette ruine à la fois politique et collective, et de cet état d'urgence qui nous appelle à peut-être faire naître de nouvelles aventures en réponse à cet état d'urgence sécuritaire que nous devons vivre bon gré mal gré. Vous, Olivier Meyer, à travers vos responsabilités d'appeler au vivant, quel constat et quelle perspective pensez-vous nécessaire d'ouvrir ?
Le constat, c'est que ça ne va pas bien, ça c'est sûr, et que ça ne va pas mieux. Bon, déjà, pour faire référence à quelques déclarations. Et c'est là, dans ce monde qui manque sérieusement de repères, et je dirais de dimension verticale. En fait, ce qui manque, je crois, dans ce monde, en tout cas occidental, et je dirais plus largement que l'Occident, parce que l'Occident, son économie a envahi le monde. Et donc, je dirais, les seuls critères actuellement qui sont évidemment l'économie, la technique, qui deviennent des objets plutôt que des moyens, fracassent le monde, clairement. La dignité de chacun doit être nourrie de la dimension mystérieuse ou absurde de l'existence, mais en tout cas reliée à quelque chose qui ne nous appartient pas sans doute et que nous devons questionner et nous devons être conscients. Voilà, ça c'est ce que je crois. Et nous avons abandonné dans notre monde cette dimension-là, cette absence de repères, cette absence de morale. Alors évidemment, si je dis absence de morale, on va tout de suite me dire que je suis un vieux conservateur archaïque, que la morale n'a rien à faire dans l'histoire. Mais si, je crois quand même que, oui, il y a des... En tout cas, on m'a transmis un certain nombre de valeurs qui permettent sans doute de préserver ce qui peut être et ce qui doit être préservé dans ce qui a fait la force de notre civilisation. Et notamment la place des femmes, par exemple, la place des femmes, la dignité de chacun, et notamment des femmes. Ça ne s'arrange pas de ce côté-là. Il y a une violence terrible qui se développe dans les relations entre chacun. La capacité de compréhension, de bienveillance, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est de plus en plus rare. Bon, d'où l'importance et la place du théâtre et des artistes. Voilà. Les artistes sont des êtres profondément religieux, pas dogmatiques, mais ils sont reliés. Ils se posent les questions. Ils n'y répondent pas toujours, et heureusement qu'ils n'y répondent pas. Parce que ceux qui sont posés les questions et qui répondent d'une manière systématique et dogmatique, on voit les catastrophes que ça peut faire. Bien. Donc, oui, les artistes, l'art a toute sa place dans cette société, et plus que jamais sa place. Et notamment pour nous rendre conscients de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se défaire, des libertés progressivement que nous abandonnons. Ça, c'est terrible, c'est absolument épouvantable. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis heureux de faire ce que je fais, que le théâtre doit rester cet espace de liberté je vais répondre à mon épouse plus tard. Oui, cet espace de liberté, de conscience, de liberté. Je crois que la liberté, mais pas une liberté provocatrice, mais une liberté de penser, une liberté où on va vers l'essentiel, où le contenu est plus important que tout ce qui est l'emballage, qui fait quand même la force de notre société, puisque c'est une société de consommation. Donc il faut que l'emballage soit très joli, il faut que le paquet, le ruban, le machin, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau ? Eh bien, je pense que le théâtre doit s'occuper beaucoup plus maintenant du contenu que du contenant. Il y a une grande maîtrise technique de plus en plus importante. Cette maîtrise technique n'est pas toujours pour servir d'immenses contenus. Voilà, si je peux me permettre. Donc, je crois que là, il y a des choses à faire et à dire. Donc, Victor Hugo est toujours d'actualité, c'est l'évidence.
Olivier Meyer, ce que vous êtes en train de nous transmettre et de nous livrer, de nous délivrer, me paraît personnellement extrêmement important. J'ai envie quand même de vous poser une question, du coup, puisque là, il faut qu'on fasse un constat, du coup, puisque vous avez vous-même constaté cette défaillance de la relation actuelle, enfin de la relation puis finalement au vivant d'une certaine manière, de la relation, de cette relation qui engage le regard de l'autre dans sa différence et dans sa capacité à inventer, dans notre capacité à inventer. Puisque vous affirmez ce que je crois aussi, la nécessité des artistes, bon, il resterait quand même entre les artistes, à peut-être se redéfinir peut-être eux-mêmes aussi dans leurs actions. Juste une question. Je vais garder l'antenne avec vous parce qu'Olivier Meyer répond à son épouse au moment où j'allais poser cette question. Je vous demande donc de bien respirer, car nous n'allons pas couper le micro pour autant. Nous allons ensemble entreprendre une respiration d'inspiration, parce que finalement tout va trop vite. La parole, les questions qui s'enfilent les unes après les autres vont aussi beaucoup trop vite. Alors avant que la question se pose. Voilà, avant que cette question se pose, un petit rappel, sauvons la liberté sauve le reste. Olivier Meyer, vous êtes prêt à ce que je vous pose cette question avant que nous nous quittions ? Voilà. Et j'ai en effet cette statue de la liberté, mais comment passer du statut de la liberté à la liberté du statut, hein? Alors, ben oui, de nos statuts. Vous savez, on est très préoccupé par nos statuts, hein? Ça donne beaucoup de statu quo d'ailleurs. Bon, ma question est la suivante. Puisque vous avez dit vous-même que vous avez rappelé la nécessité des artistes à réinventer, à nous donner conscience, je sais, c'est vos propres paroles. Aujourd'hui, vous qui êtes confronté à cet aspect structurel qui prend quand même une grande part, une amplitude extrêmement importante dans ce trait d'union que vous créez dans le rapport entre les artistes et ce qui s'appelle les publics, les spectateurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un constat d'échec sur le plan collectif dans le rapport à notre société aujourd'hui, de cet échec du théâtre qui a été, comme vous l'avez dit d'une certaine manière un peu broyé dans l'aspect consumériste, dans le marketing, dans l'enveloppe, dans le papier cadeau d'une certaine manière? Et que est-ce que vous ne penseriez pas que la respiration de l'outil du théâtre devrait peut-être se réentreprendre différemment, car ces procédés de marketing auxquels vous êtes forcément confrontés, forcément, elles ont quoi ? Elles ont quoi ? 30 ans, quoi, disons, maximum 30 ans. Voilà. Donc, où en est-on par rapport à une nécessité, justement, aujourd'hui ?
Il y a une nécessité qui est prise en charge par beaucoup, toute une jeune génération. Moi, je suis plein d'espoir, je trouve absolument admirable. Il y a ceux qui retrouvent cette nécessité justement de la parole, de l'histoire, du texte, du contenu, etc. Et qui maîtrisent aussi la technique. La technique est un moyen. Il faut pas l'abandonner, la technique, bien évidemment pas. Voilà. Donc je suis. Il y a un foisonnement incroyable, bon, quelquefois un peu exagéré, sûrement. Mais il y a des choses magnifiques qui naissent. Il y a une jeunesse là qui se bat. Et qui se bat bien pour faire exister fortement le théâtre avec des textes qui méritent d'être donnés. Voilà, je suis assez. Il faut être attentif à ça. Et le monde est compliqué pour eux parce qu'effectivement, la communication a pris une grande part et que quand on n'est pas connu, pour démarrer dans ce métier, c'est très difficile. Voilà. Donc, notre responsabilité de directeur, c'est d'être attentif, évidemment, aux propositions, et notamment aux propositions qui sont pas forcément les plus repérées, connues, etc. Et puis moi, je crois que les artistes sont les messagers de la force et de la complexité du monde, de la complexité. Et les médias, audiovisuel sont dans un rapport où cette complexité-là ne peut pas être exposée, ils n'ont pas le temps. Le théâtre a le temps, justement, et quelquefois beaucoup de temps. Il y a des spectacles qui durent 12 heures à Avignon. Et donc, c'est le temps de l'humanité et de la dignité retrouvée. C'est le temps de la réflexion, de la méditation et de la conscience. Et ce temps-là est fracassé par notamment ces appareils qui m'ont interrompu pendant notre interview. Ils s'appellent les téléphones portables. Voilà.
Victor Hugo disait « Stimulation, c'est presque création ». Vous êtes donc un stimulateur.
Pas comment je dois prendre ça, un stimulateur. Je suis un stimulateur. Bon, ne le dites pas trop, je ne sais pas. En tout cas, j'espère pas simulateur. J'espère attentif, disponible, bienveillant, complice. Oui, j'espère tout ça, bien sûr. Voilà. Et puis en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'aime beaucoup faire ce métier.
Voilà, donc merci Olivier Meyer. Pour nos auditrices et nos auditeurs, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, Olivier Meyer vous reçoit tous les jours, tranquillement, puisqu'il a décidé de prendre le temps au théâtre de Suresnes. Voilà, toute l'année, vous allez au théâtre, vous demandez Olivier Meyer, le seul directeur de théâtre apte à pouvoir prendre le temps de vous recevoir. Merci Olivier Meyer.
Je peux répondre quand même. Bon, alors ça, je voudrais répondre ça. Tout ça, c'est une déclaration admirable de Monsieur Laurent Chou.
C'est Chou, non ?
Chou, c'est ça. Hein. C'est une déclaration admirable. Évidemment, c'est un objectif. Il est évidemment inatteignable. Je reçois, il faut quand même le savoir, c'est une réalité. En moyenne, en période de programmation, 70 propositions par jour, musique, danse, théâtre, 70 par jour. Malheureusement, c'est impossible, c'est ingérable, mais j'essaye quand même de regarder et d'être effectivement attentif. Mais c'est vrai que c'est compliqué, et c'est compliqué surtout pour les artistes.
Vous venez de dire, et on terminera là-dessus, un mot extrêmement important qui nous est rappelé, par exemple, à Paris, dans le métro, par rapport à la menace terroriste, des petits spots sonores qui nous disent « Soyons attentifs ensemble ». Moi, je propose que nous le soyons également attentifs ensemble, mais pour d'autres raisons. Oui ? Non ? Non ? Voilà.
Enfin, je suis exaspéré par toutes ces instructions que donne la SNCF, les RER, machin, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un pas maintenant sans qu'on nous rappelle qu'il ne faut surtout pas fumer parce qu'on risque machin, qu'il faut évidemment être très attentif, qu'il ne faut surtout pas sortir du train quand il est en marche. Tout ça est insupportable. C'est une infantilisation insupportable. Voilà, et moi je suis pour justement une responsabilité de chacun. Nous ne sommes pas seulement le produit d'un contexte, nous ne sommes pas des mécaniques qui suivent des instructions qu'on nous donne toute la journée. Tout ça est insupportable, c'est pas comme ça que je veux vivre.
Voilà. Merci Olivier Meyer. N'oublions pas, comme dit Victor Hugo, l'art est un courage, penser est une générosité. À tout vite. C'était l'écho Hugo sur l'écho des planches, tous les jours à 17h jusqu'au 24 juillet, dans le cadre du programme Vecteur Hugo 2017. D'ici là, n'oubliez pas, aimer, c'est agir.